Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence, Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce. Quand on vient auprès de toi, Seigneur, tu t'en vas pas. Alors qu'on n'est pas parfait, Seigneur Jésus, et que toi tu l'es. Merci, Seigneur Jésus, pour cette parole que tu nous apportes ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu mettes les mots dans ma bouche, Seigneur Jésus. Tu aimes tellement plus chaque personne ici présente. Et tu sais pourquoi chacune est ici, venue ici avec une attente, Seigneur. Moi, je ne le sais pas, Seigneur. Viens mettre les mots dans ma bouche. Viens conduire tous ces instants, Seigneur. Je prie et j'ai foi dans ta parole. Je foi que, Seigneur Jésus, elle va faire des changements, qu'elle va déclencher quelque chose dans la vie de plusieurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, depuis ce matin. J'ai essayé, en fait, d'être raisonnable et de ne pas venir chanter chaque culte parce qu'après, j'ai plus d'énergie, mais je n'arrive pas. Il y a trop la présence de Dieu, alors je cours ici puis j'y vais à fond. Donc vous avez de la chance, il me reste de la voix. C'est un peu... Je ne sais pas comment ça va être à la fin de la réunion. Je pense qu'après, je vais être complètement fini. Ce n'est pas grave. Il y a quelques semaines de cela, j'ai, dans ma lecture personnelle, lu un passage que je connaissais. Mais un petit détail que je n'avais pas l'habitude de voir, qui a attiré mon attention. Et vous connaissez tous l'histoire, c'est dans Genèse 24, de quand Abraham va envoyer son serviteur pour aller chercher... une femme pour son fils, pour Isaac. Et moi, je me suis toujours mis à la place d'Isaac, j'aurais tellement stressé à sa place. Quoi ? On va me chercher une femme, je ne sais même pas comment elle est, je ne sais même pas qui c'est, je ne connais même pas son prénom. Alors papa, tu es très gentil, je t'apprécie beaucoup. Eliezer, c'est le nom du serviteur. Je suis sûr que tu vas faire ton mieux, mais il n'y a pas moyen, moi j'y vais. Vous feriez quoi ? Hein, vous feriez la même chose. Rappelez-vous comment ça s'est passé si vous êtes déjà marié. Non, il n'y avait pas moyen que quelqu'un choisisse à votre place. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il envoie un serviteur ? Pourquoi il n'envoie pas son fils ? Ça serait plus simple. D'ailleurs, Genèse 24, versets 5 et 6, le serviteur, Eliezer, il va lui dire à Abraham, il lui dit, « Devrais-je alors amener ton fils dans le pays d'où tu es parti ?» Ça serait mieux quand même, enfin, c'est lui qui est concerné. Et en fait, Abraham va lui dire, « Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. » Et quand il répond ça, on a l'impression qu'Abraham redoute cet endroit-là. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'endroit où il va aller, Eliezer. Il y a quelque chose de bizarre. Ça sonne bizarre dans la voix d'Abraham. On dirait que cet endroit a une connotation. Et on va voir ensemble de quoi il s'agit. Il s'agit de l'endroit de Charan. Et je crois que c'est un endroit... où on peut avoir de petits fruits. C'est la signification du mot Charan. Il y a des endroits où on peut s'installer et on va faire notre vie là-bas. On va commencer à construire. Mais au lieu de continuer d'avancer avec Dieu, on va s'installer dans cet endroit-là. Et c'est un endroit qui porte du petit fruit. Ça veut dire desséché, aride. Et Dieu n'a pas prévu cela pour toi. Nous allons voir les bonnes raisons ce matin qui peuvent nous éloigner du plan de Dieu. Il y a certaines raisons qui semblent bonnes et qui peuvent vraiment nous éloigner de ce que Dieu a prévu pour nous. Et le titre du message ce matin, c'est « Pars, pars avant que tu meures. Il faut que tu t'en ailles de là-bas. Si jamais tu es à Charan, il faut que tu t'en ailles. Pars, parce que tu ne vas pas vivre là-bas. Petit à petit, même si tu ne t'en rends pas compte, tu vas mourir. » En fait, Charan, comme je vous l'ai dit, ça veut dire l'endroit où il y a peu de fruits. C'est un endroit où Abraham s'est rendu avec toute sa famille. Il y va parce que, alors qu'il habite Our en Chaldée, c'est en Mésopotamie, Dieu lui apparaît et lui dit, « Toi qui m'es fidèle, toi qui m'es attaché, j'ai prévu pour toi un pays extraordinaire. Alors tu vas quitter ton pays et tu vas y aller. C'est où, Seigneur ? Je ne te dis pas. Tu vas me suivre. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi. » C'est la seule chose qu'il a comme indication. Et alors qu'ils sont en train de prendre la route, il n'y va pas tout seul, Abraham. Il y va avec son frère et avec son père. Avant, il avait un autre frère qui s'appelle Haran. Haran ou Haran, Charan. En fait, c'est le même mot. C'est le même mot. Ça veut dire exactement la même chose. Mais son autre frère, en fait, il va mourir à Our. Et ils arrivent dans une ville à un moment donné, en plein milieu à mi-trajet, en fait. Ils sont à mi-chemin. Ils s'arrêtent dans cette ville-là qui s'appelle Charan. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est le même nom que le frère qui est décédé. Et puis, à un moment donné, même si Abraham ne sait pas à quel endroit Dieu va l'amener, il est certain d'une chose, parce que Dieu va l'avertir, c'est pas ici qu'il doit s'installer. C'est plus loin le pays de la promesse. C'est un autre endroit. Et Dieu va lui apparaître, va lui dire, quitte encore, c'est pas là. Quitte encore. Abraham va voir sa famille, va voir son père et dit, Terra, papa, il faut absolument qu'on y aille ensemble. Est-ce que tu viens avec moi? Est-ce qu'on va aller? Je vais partir. Dieu m'a montré, c'est plus loin qu'on doit aller. Et Terra va rester. Et mon fils, vas-y tout seul. Moi, je vais rester ici. Et le frère d'Abraham, Nahor, va rester avec papa. Il va rester avec Terra. Ils vont rester au même endroit, à Haran, Charan, le pays des petits fruits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez tous, nous avons tous, un pays de la promesse, qui n'est pas un endroit géographique. Je suis désolé, ce n'est pas Créteil, le pays de la promesse, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu comme ça. Mais c'est un endroit, c'est un état d'esprit, c'est une dépendance à Dieu. C'est Dieu, j'accepte que tu vives avec moi, j'accepte d'être dépendant de toi. Je veux que ma vie soit selon ce que toi tu veux. J'ai compris que tu as un plan merveilleux pour moi, dans lequel tu vas pouvoir me bénir, mais bénir les autres aussi, dans lequel tu vas pouvoir accomplir ton œuvre, cette mission extraordinaire de sauver le monde à travers l'évangile que tu as mis en moi, à travers le Saint-Esprit que tu as déposé dans mon cœur. Et ça, Seigneur, il n'y a que moi qui peux le faire. Et je l'accepte et j'y vais. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, il n'y a que moi qui peux faire cette œuvre-là. Parce que Dieu a prévu un plan pour toi. Il est juste pour toi. Les autres ne peuvent pas le faire. Il est personnalisé. Par contre, tu ne peux pas faire celui des autres non plus. C'est un peu le point faible. Mais ce n'est pas un point faible parce que le plan que Dieu a pour toi, il est parfait. Tu as été créé pour ça. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà quel est le pays de la promesse. Et de la même manière que Canaan, le pays de la promesse, n'est pas un lieu géographique, Charan, ce n'est pas non plus un lieu géographique. Ce n'est pas un endroit. Des fois même, je me trouve à un endroit donné, ça va être Charan pour moi. Mais quelqu'un d'autre va y aller, ça ne sera pas Charan pour lui. Je m'explique. Par exemple, c'est quand on est à Charan, c'est quand on dit à Dieu, « Seigneur, je veux bien avancer avec toi, mais que jusque-là. Après, si tu veux continuer, vas-y. Mais moi, je m'arrête. Je refuse d'avancer plus avec toi. Je ne veux pas m'engager plus avec toi. » Quand tu fais ça, tu es en train de t'asseoir à Charan. Tu as quitté, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu vois? Tu es dans une étape et tu restes, tu t'installes là. La personne qui est intéressée par Dieu, par exemple, et qui continue d'aller voir les médiums et qui continue de faire confiance à l'horoscope parce que ça le rassure, parce que ça la rassure, et qui fait confiance à toutes ces superstitions, et qui ne veut pas s'engager complètement, qui ne veut pas faire le ménage dans sa vie et s'engager dans les autres baptêmes pour suivre Jésus, pour montrer cet attachement exclusif à Jésus, la personne qui fait ça est en train de s'installer à Charan. Elle est en train de dire « Oh, j'aime bien aller à l'église, mais je m'installe là, ça ne va pas plus loin. » Lorsque un homme qui aime le Seigneur vient à l'église, il est plutôt fidèle, etc., mais qu'il est en concubinage, et qui refuse de se marier, et qui ne fait rien pour mettre sa vie en règle, pour s'engager devant Dieu à prendre soin de sa femme et être le chef spirituel de son foyer comme Dieu lui demande, parce que c'est la meilleure chose pour lui. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de s'installer à Charan. Lorsque la maman qui prie fort et qui fait plein de trucs dans l'église, plein de trucs à la maison, qui est exemplaire sur plein de choses, mais qui, dans un certain aspect de son caractère, a dit ça, on ne va pas me changer, je suis comme ça. Alors que ce n'est pas un bon caractère. Vraiment, des fois, ça pose des problèmes. Tu crois que Dieu est capable de faire, de renverser des montagnes, mais tu ne crois plus qu'il est capable de changer ton caractère. Et toi, tu as essayé par tes efforts, mais tu ne crois plus ça. Tu ne crois pas que Dieu est capable de le faire. Tu as échoué, tu t'arrêtes là. C'est bon, j'arrête les frais. Ça, tu es en train de t'installer à Charan, le pays des petits fruits. Celui qui est baptisé, et qui est fidèle aux réunions, et qui vient, waouh, il chante et tout ça, extraordinaire. Mais si jamais quelqu'un vient le voir et lui dit, waouh, tu sais, on a plein de choses à faire dans cette église-là, et je suis convaincu que Dieu a quelque chose à faire pour toi, est-ce que tu voudrais bien venir avec nous dans ce service-là? Ça va te demander un peu, on va faire ça de manière équilibrée, pour pas que ça mange, que ça te soit un poids pour ta vie, mais on va te demander exactement ce que tu as besoin. Et la personne qui dit non, alors qu'on a tous reçu, tous, on n'est pas tous appelés à être des apôtres Paul et tout ça, mais tous vous avez reçu. Il y en a qui ont reçu un don d'hospitalité. Il y en a qui le font d'ailleurs, ils ouvrent leur maison pour les groupes connexion. Il y en a qui ont reçu simplement de... Ils vont prendre soin, ils vont bénir les gens. Il y en a qui vont s'engager à la bienfaisance. Il y en a qui vont pas juste faire des choses, dans le secret, ils prient, puis ils envoient des petits textos que seule la personne va savoir et va recevoir. Juste une bénédiction. Je ne sais pas ce que tu as reçu. J'en sais rien. Mais Dieu, il sait. Et il sait pourquoi il t'a fait. Peut-être que toi, ton appel, c'est juste d'être un bon mari. Certainement, Dieu va faire autre chose aussi avec toi. Mais il y a une première partie qui est ça. Et d'être un protecteur pour ta femme, d'être un leader spirituel, quelqu'un qui va donner la bonne direction, un bon exemple pour ta femme, pour tes enfants, pour ton foyer. C'est d'être une bonne maman, d'être une bonne épouse. Je ne sais pas quel est ton appel. Mais une chose est certaine. Dans ton appel, ne reste pas au pays des petits fruits. Ne te contente pas de peu. Il y a le chrétien qui sert Dieu aussi et qui est déjà engagé dans l'église. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des personnes qui savent, Dieu leur a dit très clairement. Ce n'est pas quelque chose de vague ou une espèce d'aspiration. C'est vraiment quelque chose qui s'impose à eux. Il y a une parole de Dieu très claire pour leur vie. Et Dieu est content de ce qu'ils font, mais ils veulent faire autre chose. Et cette autre chose, qu'elle soit plus ou moins gradée aux yeux des hommes, on s'en fiche. Pour Dieu, c'est mieux parce que c'est juste plus pour ça que Dieu t'a fait. C'est exactement même pour ça que Dieu t'a créé. Et que toi, tu es en train de dire, oui, mais j'ai peur de changer. J'ai peur de, là, je suis à l'aise dans ce que je fais. Il faudrait que je recommence tout à zéro. À ce moment-là, quand tu es en train de dire non, tu es en train de construire ta maison à Charan. Tu es en train de t'établir dans le pays du petit fruit. Il y a tellement de situations différentes. En fait, quand on arrive à Charan, c'est quand on dit à Dieu, « Waouh, ça y est, j'ai compris. Ça y est, on est arrivé. Je m'installe là, c'est bon. » Mais en fait, sur cette terre, écoute bien cette parole, Dieu n'aura jamais fini d'avancer avec toi. Jamais. Tu avanceras toujours. Le jour où tu n'avances plus avec Dieu sur cette terre, c'est que tu es au ciel. Tu es avec les anges, avec tout le peuple de Dieu en train de le louer pour l'éternité. Dans sa gloire. Et j'ai hâte de ce moment-là. Mais pendant ce temps-là, en attendant, moi je suis sur cette terre et Dieu va toujours avancer avec moi. Le papy qui est sur son lit de malade qui a 92 ans et la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de temps en temps demander qu'on lui passe le verre d'eau. Dieu a encore quelque chose à faire avec lui et veut encore avancer avec lui parce que Dieu peut se révéler à lui dans son cœur. Il y a des choses incroyables que Dieu peut faire. Et nous ne pouvons pas rester dans le pays des petits fruits. Trop de gens vivent dans une espèce d'atmosphère petite, limitante. On met Dieu dans une boîte. Vous avez déjà entendu les gens qui vont parler de ce qui s'est fait il y a longtemps, au loin. Oh oui, Dieu a fait de grandes choses, mais ce n'était pas ici. C'est toujours au moins très loin ou alors il y a longtemps, minimum, d'accord ? Lorsque Dieu va agir, oui, mais Dieu fait pour telle ou telle personne. On a l'impression que Dieu peut presque rien faire pour eux. Ils acceptent que Dieu les conseille. Ils n'acceptent pas trop que Dieu transforme le cœur. Ça devient comme une partie de ce que Dieu veut faire qui est, on l'efface. Non, ça je mets de côté. Ce n'est pas pour moi, ce n'est plus pour moi. Et il y a comme une satisfaction, un contentement des petits fruits. Je vais vous dire quelque chose. Pensez-vous que le monde dans lequel on vit a besoin d'une église qui porte des petits fruits, a besoin de chrétiens qui portent des petits fruits, qui ont une petite foi dans un petit Dieu, qui peuvent faire des petites choses, des petites réunions, des petites prières, des petits moments de communion, des petits moments de louange, une petite prédication? Ce n'est pas une question de taille, vous comprenez? De la même manière que Charan, ce n'est pas un lieu. Le petit que tu mets avec Dieu limite tellement ce qu'il veut faire pour toi. Tellement. Et Dieu veut plus. Ce que Dieu veut pour ta vie dépasse même ton imagination, ton entendement. Ce n'est pas juste de la pub et ça fait bien de dire ça, ouais, c'est extraordinaire, c'est des superlatifs. Mais c'est la vérité. Jamais j'aurais pensé vivre des choses que j'ai déjà vécues jusqu'à aujourd'hui. Il me reste tellement encore à vivre et j'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais je sais une chose, Dieu n'a pas prévu que je porte du petit fruit. Je ne suis pas vivant pour porter du petit fruit. Et je ne vais certainement pas mourir en portant du petit fruit. J'ai faim de plus. J'ai soif de plus et Dieu a faim de plus pour toi. Et on va voir ensemble trois choses, trois bonnes raisons, je mets des petits guillemets, parce qu'en fait, ce n'est pas franchement mauvais, mais dans certaines conditions, ça peut devenir vraiment très dangereux pour nous. Trois bonnes raisons qui peuvent nous éloigner en fait du plan de Dieu, nous éloigner de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que Abraham, comme je vous l'ai dit, il a toute une partie de sa famille qui est restée à Charan. Et ils se sont installés là-bas pour des raisons différentes. Et on va voir ensemble ce que c'est parce que je pense que Dieu a prévu que je dise cette chose-là pour que tu l'entendes maintenant. Et il y a certainement une chose qui va percuter ton cœur parce que tu vas te retrouver dedans. La première chose, c'est le souvenir. Le souvenir peut être une raison pour laquelle tu vas t'implanter, vivre à Charan. Par exemple, le papa de Abraham, Terah. Terah, ça signifie halte, délai, retard. En fait, c'est celui qui reste en arrière. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est tout le temps en retard. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous. J'en fais partie. Ce n'est pas juste ça. C'est quelqu'un qui va rester délibérément en retrait. Et en fait, il est en train de regarder en arrière tout le temps. Il est tellement en train de penser au passé qu'il ne pense plus à son avenir. Son passé gâche son avenir. Hypothèque complètement son avenir. Terah arrive dans une ville qui porte le nom de son fils qui est décédé. Et moi, je ne sais pas ce que ça fait d'être papa. Je sais encore moins ce que ça fait d'être papa, mais papa qui a perdu son enfant. Les personnes que j'ai accompagnées, qui ont vécu ça, waouh, j'ai pas vraiment envie de connaître ça. Parce que c'est tellement, on n'est pas fait pour ça. C'est pas aux enfants de mourir avant les parents. C'est extrêmement compliqué à gérer. Je crois que Dieu, néanmoins, est capable de faire des miracles et de consoler, d'apporter vraiment une consolation. Mais on n'est pas fait pour ça. Et vous savez, Terah, il arrive dans cette ville qui porte le nom de son fils. Et quand, à un moment donné, Abraham va venir le voir et lui dire « Papa, il faut qu'on avance. » Terah, il est incapable de se projeter. Il va rester ici. « Non, 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 moi, je ne bouge plus. » Je ne sais pas si elle dit « Ça porte le nom de mon fils, je n'ai pas envie de l'abandonner une autre fois. » J'en sais rien, je ne veux pas faire de suppositions. Mais à un moment donné, il est tellement dans le passé qu'il hypothèque complètement son avenir. J'ai un de mes amis que j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, donner son cœur à Jésus parce qu'il avait un souci, c'est qu'il aimait tellement la fête, les copains, sortir et tout ça. Il aimait trop ça, en fait. Et à chaque fois, il disait « Seigneur, waouh, ton amour est incroyable et je t'aime, Seigneur, et je veux m'engager. Je vais tout faire pour que je te suive, pour vivre avec toi. Je te donne ma vie, etc. » Et à chaque fois, il venait et c'était sincère. C'était sincère. Mais ça tenait un mois, deux mois entre les camps. Et puis après, les copains, ils appelaient « Ouais, tu veux venir ?» et tout ça. « Non, non. » Deuxième semaine. « Non. » Troisième semaine. « Bon, je reste pas longtemps. » Et vous avez continué après. Vous avez. Et à un moment donné, à chaque fois, il lâchait. Ça l'attristait, mais il aimait ça. Et c'était tellement dur pour lui. Je me rappelle, on était allé à un rassemblement en Normandie, au Zénith de Rouen. Il y avait le pasteur Guy Bergamini qui était là. Et il prêchait un message qui parlait d'ailleurs de Charan. Ce n'était pas le même message, mais ça, il y avait des choses qui se recoupaient. Et alors qu'il est en train d'apporter un message comme ça, je vois mon ami qui se lève à la fin, à l'appel. Il y a des larmes dans ses yeux, mais il n'est pas quelqu'un qui lève la tête vers le ciel, c'est quelqu'un qui baisse la tête. Et en fait, je comprends qu'il est touché par l'amour de Dieu, mais ce que je n'avais pas compris sur le moment, il me l'a dit après, il me dit « Mais tu ne sais même pas ce que j'ai dit à Dieu à ce moment-là. J'étais en train de lui dire « Seigneur, ton amour est tellement incroyable que je ne peux pas ne pas me lever, mais je n'ai pas envie de m'avancer. » Parce que je vais encore une fois faire un engagement que je ne vais pas tenir. Je me vois déjà en train d'abandonner Dieu. Et en fait, il avait des larmes de rage, il était dégoûté parce qu'il se dit « ça ne sert à rien ». Je vois toutes les fois où je me suis levé. Au moment où il est en train de se lever pour répondre à l'appel, dans sa tête, il repasse tous les moments. Tu vois, telle année, tel moment. Et il se revoit en train de faire des super prières qui sont sincères de sa part. « Seigneur, je vais tout faire pour rester avec toi ». Et il est comme ça, il y a des larmes d'amertume. Et à un moment donné, il va avoir un déclic dans son cœur. Il va dire « Non, le passé, c'est le passé. Et je ne vais pas me laisser avoir par les autres fois derrière. Alors Dieu, il y a tout mon passé qui me rappelle mes échecs et qui veut me décourager d'avancer avec toi. » Et il va faire cette prière. Vous savez, des fois, quand vous allez à l'appel, vous attendez un grand moment avec Dieu. Je vous décris un peu comment ça se passe. Vous vous approchez. Puis, il y a un pasteur qui arrive et qui commence à crier assez fort, à vous décoiffer d'une manière impressionnante. Moi, j'ai mis du gel, c'est fait exprès. Mais tu ressors, tu as les cheveux comme ça, et ce n'est pas voulu. Et puis, il te secoue tellement que tu finis t'as le cou comme ça, puis tu dois retourner à l'appel, mais c'est pour la guérison de ton cou, parce que t'as un torticolis. Et des fois, et là, tu dis, waouh, j'ai passé un gros moment, là. Là, Dieu était présent. Je tremblais de partout, j'étais couvert de postillons, c'était génial. Mais là, c'est pas du tout ce qu'il a vécu, mon ami. Pas du tout. Il est arrivé et dit, non. Je peux pas le passer à côté de cet amour, de cette grâce qu'il a pour moi. Alors, Seigneur, si c'est vrai que tu m'aimes tellement, moi, j'y arrive pas. Je t'ai promis, je sais pas combien de fois, d'essayer d'y arriver, j'y arrive pas. Et si tu veux bien de moi quand même, ben, la seule condition, la seule truc qui peut marcher, Seigneur, c'est que tu fasses un miracle. C'est que tu m'aides. C'est que, pas par mes propres forces, mais par ta puissance, je sais pas, tu fais un truc, j'ai aucune idée de ce que tu peux faire, mais fais quelque chose, Seigneur. Et il ne savait pas ce qu'il disait, mais il a dit quelque chose de profondément vrai. Et c'est exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Cette puissance incroyable dans cette prière. Dieu, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, il est papa, marié. Il sert Dieu dans son église. Il est responsable de jeunes. Il fait les chants à l'église. Il est super. Il s'épanouit. Et Dieu a rétabli complètement sa vie qui partait complètement en lambeaux, qui est en train de mourir dans le pays des petits fruits. Mais Dieu l'en a sorti, parce que juste, il lui a fait confiance. Amen. L'apôtre Paul va dire, « Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière. Ce n'est pas mauvais, le souvenir. » Ça nous permet d'éviter de faire des erreurs qu'on a déjà faites. Il y a des choses qui sont importantes, des bonnes paroles, des choses, des moments incroyables que l'on doit garder. Mais lorsque le souvenir t'amène à te paralyser à cause des erreurs du passé, à te bloquer dans ta culpabilité, en oubliant ce que Jésus a fait, en oubliant que Dieu peut transformer, lorsque le souvenir devient une nostalgie qui fait que tu n'es même plus capable de tourner la tête vers l'avenir, et quand bien même il y aurait des choses extraordinaires, ouais, mais avant c'était mieux. Quand le souvenir devient ça, c'est dangereux pour ta vie. Mais tu as la possibilité de faire un choix. Je ne veux pas laisser la nostalgie me voler ma destinée. Je ne veux pas laisser le passé hypothéquer mon avenir. Mais je veux me souvenir de l'appel que Dieu m'a adressé quand il m'a tiré de Our, de là où j'étais avant. Je veux me souvenir de cet appel-là. Je veux me souvenir de ces paroles, de ces promesses incroyables. Et je crois qu'elles vont s'accomplir dans ma vie. La deuxième chose... Ça commence par S, comme ça vous pouvez vous en rappeler. Premier, le souvenir. Deuxième chose, la satisfaction. C'est plutôt bien d'être satisfait parce que vous connaissez certainement comme moi des gens qui sont tout le temps insatisfaits. C'était bien ce matin. Oui, mais j'ai noté un petit détail. Alors tu vas rire, mais si c'est un détail, pourquoi tu restes bloqué dessus? Le reste était bon, prends-le. Il y a des gens sans cesse... Ça va jamais en fait. Et quand bien même c'est très bien, ah ouais, mais moi je m'attendais à ce que ce soit excellent. Bon, je vous laisse gérer comment vous réagissez avec ces personnes-là. C'est pas facile, c'est énervant. On a l'impression qu'ils sont là et quand bien même il y a du fruit, il y a des bonnes choses, sans cesse, eux, ils vont ramener leur petit charan portatif personnel de oui, il y avait du fruit, mais c'était pas terrible quand même. Et ils se baladent avec leur endroit stérile autour, et ça produit quoi? Eh bien, ça va tuer l'enthousiasme des gens autour, ça va tuer la joie, ça va tuer... C'est des charans ambulants. Je ne sais pas si ça existe, d'ailleurs. Et en fait, ils se baladent avec ça. Et la satisfaction, c'est une bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le problème, c'est lorsqu'on se satisfait de tout et n'importe quoi. Notamment, lorsque Dieu t'a promis quelque chose et que tu n'as pas tout à fait ça, que tu as un peu moins, tu as quelque chose qui va le remplacer, tes propres efforts ou un mélange de plein de trucs, de religion, de ceci qui semble répondre à ta soif de Dieu. Bon, ça ne répond pas complètement, mais ce n'est pas loin et tu t'en satisfais. Lorsque tu te satisfais de moins bien que ce que Dieu peut t'offrir, là, ça devient dangereux pour ta vie. À Our, c'est un lieu... connu dans la Mésopotamie, parce qu'il y avait un temple, un centre important pour le culte du dieu Sin. Pour les Mésopotamiens, c'est le dieu de la lune, c'est un dieu de fertilité. Et quand ils arrivent à Charan, Laban, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, un descendant de Nahor, du frère d'Abraham. Je crois qu'il est, c'est le petit-fils. Et lui, il va vouloir s'installer là. Il va rester. Il va essayer de prospérer là-dedans. Et ça lui va complètement. Quand ils ont quitté Our, ils ont quitté cette idolâtrie. Et ils arrivent à Charan. Le seul problème, c'est que Charan, c'est le deuxième centre le plus important de toute la Mésopotamie pour le même Dieu, pour la même chose. La même idolâtrie, les mêmes choses abominables qui se passent. Et il aurait pu se dire, bon, on arrive dans le pays qui n'est pas fertile, le pays des petits fruits. Heureusement, on a le Dieu de la fertilité qui est avec nous. L'un dans l'autre, ça s'équilibre, ça passe. Il y a tellement de gens qui se contentent de peu. Ils vont aller à l'église, à côté de ça, ils vont se nourrir de tellement de mauvaises choses. Ils vont en fait vivre dans un compromis. Le fait que tu te satisfasses de peu, un niveau d'exigence extrêmement faible, tu vas être capable de faire du compromis avec tout et n'importe quoi. Tu vas à l'église, le soir, tu vas au cinéma, tu vas regarder n'importe quoi. Tu vas à l'église, mais tu continues à garder des rapports cordiaux avec le marabout de la famille. Tu te fais ta religion. Hein ? La grâce, c'est très intéressant au niveau du christianisme. Bon, maintenant, il y a des choses au niveau nature qui sont pas mal du tout chez Bouddha. Donc, tu vas le prendre un petit peu, tu vas mélanger un petit peu, une petite pincée pour assaisonner de philosophie. Hein. Tu rajoutes 2 ou 3 croyances ancestrales et des trucs comme ça. Tu mets ça au bain-marie, 2-3 minutes. Je ne dis pas le thermostat, c'est une recette de famille, c'est un secret. Et puis, chacun arrive avec sa petite recette, sa petite popote personnelle. Et tu t'étonnes que quand tu viens à l'église, ça porte peu de fruits. Tu t'étonnes que les promesses merveilleuses de Dieu semblent marcher sur tout le monde, sauf sur toi. Tu t'étonnes, tu dis, Seigneur, mais je te prie, j'aimerais bien voir toutes ces choses-là. Mais comment peux-tu croire que ça va fonctionner? C'est Dieu qui a le pays de la promesse. Ce n'est pas tous les autres charabias, là. Et souvent, les gens se trouvent enchaînés, physiquement, par leurs paroles et tout ça. Mais surtout, le plus grave, c'est spirituellement. Par plein de choses qui semblent anodines. Plein de choses qui vont sembler, c'est pas grave, c'est un petit truc. Et dis, Seigneur, je te laisse la place jusque-là dans mon cœur. Bon, le reste, c'est pour ça d'ailleurs que je te laisse pas plus de place. Il faut que je garde un peu de place pour les autres. Mais Dieu est un Dieu jaloux, c'est un Dieu exclusif. Personne ne nous aime comme lui nous aime. J'aimerais même dire, tous les autres dieux, il n'y en a aucun qui aime l'homme, qui t'aime. Il n'y en a aucun. Ils sont incapables d'aimer. C'est Dieu qui est amour. Et si tu laisses toute la place à Dieu, tu ne pourras pas être béni plus et tu ne pourras pas bénir plus. Parce que ce n'est pas juste être béni, on reçoit pour les autres. Et tu ne pourras pas bénir plus que simplement en confiant vraiment ta vie à Dieu. Il y a une deuxième chose avec laquelle Laban a pu se satisfaire, c'est ses propres efforts. Si vous allez regarder aujourd'hui sur Google Earth, vous allez voir que la ville de Charan se trouve au milieu d'un carré de verdure en plein milieu du désert. Il n'y a rien du tout. Il y a des gros fleuves qui sont un peu plus loin, mais il y a juste une très très fine, on la voit à peine, bande de végétation autour du fleuve. Et en milieu de nulle part, il y a un carré avec en plein milieu Charan et c'est ouvert. Je me dis, mais comment ça se fait ça? Donc j'ai fait des recherches, j'ai travaillé un petit peu et du coup, je me suis rendu compte qu'ils ont détourné au niveau des fleuves, etc. Ils ont fait un travail d'irrigation et du coup, ça devient... en Turquie, la Turquie actuelle, un des endroits de production assez important pour le Moyen-Orient parce qu'ils ont irrigué. Maintenant, le problème, c'est que ça dessèche tout ce qu'il y a autour. Ça contribue au désert qui est tout autour. Et d'ailleurs, quand on essaie de faire par nos propres moyens ce que Dieu veut faire, quand tu essaies de remplacer l'action miraculeuse de Dieu dans ta vie par tes efforts personnels, ton travail, le nombre de temps que tu vas passer à l'église, le nombre de fois où tu vas y aller, le nombre de prières, le nombre de fois où tu as dit « Seigneur » dans la prière, très important. Et je ne sais pas tout ce que tu vas pouvoir faire, essayer pour impressionner Dieu, pour essayer de compenser le fait que juste tu ne lui laisses pas accès à ton cœur. Mais finalement, ça peut être mauvais pour toi. Parce que quand même tu vas avoir du fruit, ça ne sera jamais aussi bien que le vrai fruit dans une terre fertile. Ça dépend en plus de ton travail, le jour où tu ne peux plus travailler comme ça. Comment tu vas porter du fruit? Et puis, je vais même aller plus loin. Il y a des gens qui sont tellement en train d'essayer de tout faire pour se racheter par leurs œuvres, que ça fait comme l'irrigation. C'est-à-dire, eux, ils ont du fruit, mais tout autour, il n'y a plus rien, et de moins en moins. On appelle ça le zèle amer. Ils sont très zélés dans ce qu'ils vont faire, quitte à écraser les autres, quitte à les éloigner, et ils communiquent vraiment pas quelque chose de bon. Alors, ils portent du fruit, mais est-ce qu'il est bon ? Je ne sais pas. Je n'ai pas sûr. Jésus a dit, « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance. » En abondance. Non seulement l'irrigation, elle est surabondante. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est une promesse pour toi. Et les fruits, le pays où coule le lait et le miel. Quand ils sont allés visiter le pays, ils n'arrivaient même pas tout seuls à prendre une grappe de raisin. Moi, j'arrive, les grappes de raisin, je ne suis pas fort, mais quand même ça, j'y arrive ici. Ça regorge les fruits que Dieu veut porter dans ta vie, dans le pays de la promesse, dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans le plan qu'il a pour toi. Tu n'as pas idée à quel point ils sont grands, à quel point ils sont d'une grande valeur. Premièrement, le souvenir. Deuxièmement, la satisfaction. Et tu peux faire ce choix. De ne pas te satisfaire de ce que le monde peut te procurer, ni de ce que tes efforts vont pouvoir te procurer, ni de ce que toute autre voie qui va t'éloigner de Dieu peut te procurer. Mais tu peux faire ce choix de dire, c'est la seule satisfaction, elle me vient de ce qui vient de Dieu. Je la prends de... Ça me vient de Dieu tout ça, ça me vient du ciel. C'est des promesses de Dieu. L'apôtre Paul va... Il a compris ça et il va dire plusieurs fois, ma seule satisfaction, toutes les choses que j'ai faites, toutes les études théologiques que j'ai faites, tous les... je peux être meilleur, je peux écraser tout le monde là-dedans, mais je regarde ça comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ qui est tellement meilleur. Je veux connaître Dieu, je veux avoir cette relation avec Dieu et Dieu veut cela pour toi parce que c'est une clé pour que tu portes du fruit et Dieu ne se satisfait pas si tu restes installé à Charan. La troisième chose, la sécurité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contre la sécurité. On va faire un essai, vous êtes prêts ? Qui est contre la sécurité ? Troisième culte, il y a quelqu'un qui n'avait pas bien écouté, qui a levé la main. C'est un piège. Bon, qui est contre la sécurité ? Personne. On est tous pour avoir de la sécurité parce qu'on n'aime pas le danger et puis on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Cependant, si vous regardez votre vie, c'est très dangereux parce qu'on est tous en danger de mort, le fait qu'on soit vivant. Le seul moyen de ne pas être en danger de mort, c'est de ne pas être en vie. Si vous faites du sport, vous allez entretenir votre corps, mais vous avez aussi abîmé votre corps au fur et à mesure. Vous allez abîmer vos cartilages, etc. Même si vous le faites, prenez plein de précautions, c'est l'usure normale de la vie. Si vous ne voulez pas vieillir, il ne faut pas vivre en fait. Vous voyez, on aura toujours une part de risque à un moment donné. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait ça, très justement, c'est une femme qui était dans... une famille très, très sécuritaire. Sa maman, elle prévoyait toujours le pire, tout le temps. La moindre chose, c'était une catastrophe. Une fois, elle allait faire du ski et elle est tombée. Puis c'est fait mal à la jambe. Je croyais que c'est cassé la jambe, c'est fait une entorse. Mais sa maman ne voulait plus qu'elle aille faire du ski du tout parce que c'est dangereux. Mais à ce moment-là, tu ne fais plus rien. Et la seule chose que tu fais, c'est essayer d'être bien en sécurité toute ta vie jusqu'au moment où tu vas mourir pour pouvoir mourir de manière très... pas brusquement, tu vois, très, très sécuritaire. Mais tu ne fais plus rien. Et Dieu ne nous demande pas d'être des écervelés. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Et Dieu nous a pourvu d'une intelligence pour qu'on s'en serve. Il nous donne une intelligence, c'est vrai. Seulement, dans le plan que Dieu a pour nous, il faudra forcément prendre des risques. La foi est un risque. Tu fais confiance. T'as pas encore vu que ça va arriver, mais t'y vas. C'est un risque. Mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout ce que tu vas vivre avec Dieu nécessitera la foi. Absolument tout. Et comme on l'a vu la semaine dernière, la crainte, la peur est bien souvent le premier ennemi de la foi. Oui, mais si... Non, je sais que Dieu m'aime. Et si jamais il est occupé avec deux anges, il discute et tout ça, il ne voit pas que je suis en train de... Et des fois, on se pose tellement de questions. Dans la famille d'Abraham, celui qui avait un problème avec la sécurité, c'était Nahor. Nahor, ça veut dire celui qui renacle. Alors, renacler, C'est comme les chevaux ou les ânes que vous voulez amener à un endroit et ils ne veulent pas. Ils mettent les quatre pieds comme ça, ils font ça, ils vous soufflent à la tête, etc. Et ils ne veulent pas avancer. Nahor, celui qui renâcle. Peut-être que Dieu, tu es convaincu, veut t'amener à plus d'engagement dans les différentes situations que j'ai dit tout à l'heure, dans la situation qui te concerne. Dieu veut plus. Il veut aller plus loin. Et toi, tu es comme ça. Non, non, je ne sais pas ce qui va se passer. Abraham ne savait pas où il allait. Il savait juste que Dieu allait le conduire. L'apôtre Paul va dire, le Saint-Esprit me pousse à aller là-bas. Je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Et là, aucun d'entre nous n'a envie d'être l'apôtre Paul. On n'aime pas ces surprises-là. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment une surprise ? Pour nous, oui. Pour ceux qui sont autour de nous, oui. Vous ne savez pas ce qui va m'arriver demain. J'en ai aucune idée, moi non plus. Mais Dieu le connaît. Et puis, c'est son plan. Et c'est un plan d'amour, en plus. C'est quelque chose qu'il a fait parce que je suis cher à ses yeux. Et en plus de ça, il ne sommeille ni ne dort pour pouvoir veiller sur moi. Et il est tout puissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien m'arriver, que je ne connaîtrai pas de danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dont je vais devoir me battre pour les conquérir. Il n'y a pas des choses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas devoir me défendre et prendre position par rapport aux promesses que Dieu m'a données. Il y aura des situations qui vont être peu tranquilles pour moi. Mais en réalité, la vraie tranquillité, c'est quand c'est la guerre. Moi, je suis tranquille au fond de mon cœur parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Et la Bible dit que quand bien même mon père et ma mère vont m'abandonner, jamais Dieu ne m'abandonnera. Jamais, jamais, jamais. En fait, ma sécurité peut être mise à mal. Mon confort peut être mis à mal. Et est souvent, et sera souvent mis à mal. Lorsque Dieu va te demander un peu plus, tu vas t'engager dans l'église. Ouais, mais non, mais j'ai peur que j'ai plus assez de temps par rapport à ceci, par rapport à... On a toujours des trucs à faire quand il faut servir Dieu. Il y a toujours plein de trucs qu'on trouve à faire à ce moment-là. Et Dieu nous appelle à être équilibrés même dans ce, là-dedans. L'église, ce n'est pas un moyen d'échapper à notre responsabilité familiale, notre responsabilité de couple. Tu ne viens pas à l'église servir parce que comme ça, ça t'évite d'être confronté à ton mari ou à ta femme. Hein ? Jésus va transformer ton cœur et son cœur, il est capable de faire une œuvre extraordinaire dans ton couple. Mais que la famille, que le travail, que ce soi-disant équilibre ne soit pas un prétexte pour toi pour ne pas t'engager avec Dieu. Parce qu'un chrétien qui est sauvé sur le canapé du salut et qui est en train de faire la sieste bien gentiment, passe tellement à côté de ce pourquoi Dieu l'a sauvé et l'a créé. Il passe à côté. Qu'est-ce qui est important ? D'être bien tranquille toute sa vie avec tout ce que tu as voulu, la voiture que tu voulais, la maison que tu voulais, le travail que tu voulais. Et quel fruit pour Dieu ? Un petit fruit ? Est-ce que tu vas te contenter de cela ? Ou alors, est-ce que dans ton cœur, ces choses-là sont aussi importantes ? C'est vrai, ta famille, elle est importante et tu as envie d'être bien logé, de pouvoir subvenir à tes besoins. Et ces désirs-là ne sont pas mauvais du tout, ils sont légitimes. Mais est-ce que dans ton cœur, la priorité, c'est Seigneur ? Il y a ton œuvre. Et les gens autour, ils en ont besoin. Et moi, je ne veux pas rester dans le pays du petit fruit. Parce qu'à un moment donné, je vais mourir là-bas, si je reste. Si je dis non à la vie de Dieu va partir. Qu'est-ce qui va rentrer ? C'est tellement important, cet appel-là. L'apôtre Paul va dire, « Et maintenant, me voici en route vers Jérusalem. L'esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Mais ma vie m'importe peu. » Qui peut dire cela aujourd'hui ? C'est dur de dire « ma vie m'importe peu ». Et c'est vrai que lorsque tu t'engages plus avec Dieu, il y a toute une part qui concerne « tu vas mourir à toi-même ». À un moment donné, ça va être ce que Dieu va te demander qui va être important et ce que tu vas pouvoir faire pour les autres qui va être important, être pour les autres qui va être important. Ta vie est une vitrine de l'action de Dieu puissante et elle est prévue pour porter du grand fruit, du beau fruit, parce que ça donne envie aux gens de se tourner vers Dieu. Ça les fait réaliser que Dieu est vivant et qu'il peut faire quelque chose sur une terre tellement pleine d'injustice comme aujourd'hui. C'est à ça que ça sert. Et à un moment donné, si tu veux porter du fruit, il faut que tu tires un trait sur ma vie qui m'importe. Parce que ça va être un grand facteur de tout bloquer et de s'installer à Charan. Maintenant, on oublie souvent quelque chose. Quand Dieu dit « il faut que tu meures à toi » et que l'apôtre Paul dit « ma vie m'importe peu », mais Dieu t'aime, ta vie lui importe. Vraiment. Moi, je suis convaincu que souvent l'obstacle des gens à tout ce qu'ils recherchent, à leur bonheur personnel, c'est qu'ils sont focalisés dessus. s'ils étaient focalisés juste sur Jésus, pas une question d'intérêt ou quoi que ce soit, de ce qu'ils vont pouvoir avoir pour leur propre vie. Si seulement ils étaient focalisés beaucoup plus sur Jésus, sur ce que Dieu voudrait faire pour leur vie, je suis convaincu qu'ils seraient comblés de bénédictions. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Il y a tellement de choses comme ça qu'on a besoin d'apprendre avec Dieu. Mais je t'en prie, ne reste pas à Charan. Ne reste pas dans ce pays-là. Pars avant que tu meures. Va-t'en. Il faut que tu t'en ailles. On va terminer ce moment, ce message, mais je me suis aperçu, alors que j'étais en train de travailler sur ce message, qu'un personnage que certainement vous connaissez a une histoire. J'étais juste triste quand j'ai vu ça. Balaam, vous le connaissez ? Balaam, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit des paroles de Dieu. Dieu lui apparaît, lui dit des trucs prophétiques qui vont se faire pour les autres. C'est incroyable, ça c'est un service, ça c'est un appel. Le seul problème, c'est que Balaam, on entend parler de lui dans la Bible quand un ennemi d'Israël, du peuple de Dieu, Balak, va lui demander « Hey, toi qui es un prophète et qui dis des prophéties qui s'accomplissent, tu pourrais pas venir pour maudire le peuple de Dieu ?» Alors Balaam, il lui dit « Bah non !» Il dit « Mais ça serait bien que tu viennes quand même !» Ouais, mais non, mais je peux pas. Dieu va jamais me mettre ça dans la bouche. Il va pas pouvoir faire autre chose que bénir son peuple. Et il insiste une troisième fois. Il dit, bon, écoute, je vais venir, mais je vais dire ce que Dieu me dira. Je peux pas faire autrement. Et puis, Balak, il lui dit, bah, tiens, mets-toi ici. Vas-y, prophétise. Et là, il y a une parole de bénédiction extraordinaire sur le peuple d'Israël qui va sortir de la bouche de ce prophète, de Balaam. Alors le roi, il est dégoûté, il lui dit bah, « on va essayer d'un autre endroit, peut-être que ça va mieux marcher, il y a peut-être trop d'ondes positives. » Je ne sais pas comment il explique le truc, on dit « on va réessayer. » Et une deuxième fois, et une troisième fois. Et en fait, ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est que Balaam, il fait partie de la famille qui était restée à Charan. C'est un descendant de Laban. Il est resté dans le coin. Et au lieu d'être avec le peuple de Dieu, il s'est installé là et il a complètement déconnecté à tel point que, alors qu'il a un appel de prophète, on l'appelle pour maudire le peuple de Dieu. Il est tellement dans les choux, il est tellement loin de ce que Dieu voulait pour lui. Et j'étais triste de voir que quelques chapitres plus tard, on voit que le peuple d'Israël va être contre les nations avec lesquelles est Balaam. Et Balaam va mourir comme ça dans cette guerre. Mais pourquoi il les a pas rejoints après les avoir bénis ? Il savait ce qui allait leur arriver, c'est lui qui l'a dit. Personne n'est mieux informé que lui. Il sait très bien que c'est le peuple de Dieu. Il vient de le dire. C'est même sa famille, quelque part, à quelques générations près. C'est lui. C'est de lui qui va s'agir. Comment ça se fait qu'il passe tellement à côté ? Je ne peux pas voir un ministère qui produit moins de fruits que le ministère de Balaam. Même son âne lui parle, entend la voix de Dieu, lui. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire n'importe quoi. Je ne sais pas qui vraiment était l'âne dans cette histoire. Du coup, des fois on est têtu, on est obstiné. J'aimerais te dire ceci. Alors que tu as le choix, tu te rends compte maintenant que peut-être tu t'étais installé à Charan, dans le pays des petits fruits. Tu t'aperçois et tu entends la voix de Dieu qui est en train de te dire « Pars, 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 moi je t'appelle ailleurs. Prends tes bagages. » Il va dire à Abraham une deuxième fois « Va, quitte ce pays. » Quitte ta famille. La question n'est pas d'abandonner les siens, d'abandonner sa famille, d'accord ? C'est quitte ta sécurité que ça veut dire. Quitte ta sécurité. Quitte ton souvenir. Quitte ta satisfaction. Quitte toutes ces choses-là. Parce que moi, ce que j'ai prévu pour toi, c'est extraordinaire. On va fermer les yeux ensemble. Alléluia. Jésus. Tu es venu ce matin et peut-être tu ne savais même pas pourquoi tu es venu à l'église. Et tu te retrouves choqué parce que Dieu a mis exactement le doigt là où il y avait besoin. Et tu te retrouves juste percuté par la parole de Dieu qui va au-delà, moi je n'en ai même pas conscience, mais Dieu t'a parlé ce matin. Et cet appel à quitter Charan, le pays des petits fruits, est en train de vibrer dans ton cœur. Dieu est en train de faire naître un désir dans ton cœur de porter plus de fruits, d'en vouloir plus. Il y a une faim et une soif que autrefois peut-être tu as connue. Quand tu disais « Ah, je me rappelle, j'étais bouillant quand je me suis converti. » et à ça que tu as perdu. Mais Dieu t'appelle à renouveler ça. Dieu veut plus. Dieu veut que tu retrouves, que tu ailles même plus loin. Dieu veut que tu continues à marcher avec lui. La question, elle est simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester à Charan? Est-ce que, parce que tu as peur de quitter ton confort, ta sécurité, tous tes repères et que ça te perturbe, est-ce que tu vas rester comme Nahor? Est-ce que tu vas renacler? Est-ce que tu vas te tenir sur tes jambes pour surtout pas avancer avec Dieu et te sortir de la vie dans laquelle tu es et dans laquelle tu te satisfais? Est-ce que tu vas faire comme Laban, qui est prêt à faire du compromis parce que ça le satisfait finalement? Est-ce que tu vas rester là-dedans, quitte à ce que ça ait des conséquences même sur la génération, sur Balaam qui passe tellement à côté de son appel? Est-ce que tu vas faire comme Terah, le papa, qui est tellement plongé dans son passé, en train de dire « Oui, mais moi j'ai vécu telle souffrance, j'ai vécu ça, j'ai des blessures moi dans le cœur. Et moi je ne peux pas changer cette partie de caractère parce que c'est grâce à ça que je m'en suis sorti. C'est parce que j'ai une force de caractère et je sortais les crocs quand on appuyait là parce que moi j'ai été blessé avant. » Et tu refuses de laisser Dieu toucher à ça parce que c'est à toi et parce que tu dis « Non, ça ne peut pas changer. » Et parce qu'il y a toute une liste de choses dans ton passé, la liste de tes échecs et à chaque fois que tu as raté, qui sont en train de te rappeler pourquoi tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Pourquoi il ne faut pas que tu quittes Charan? Mais il y a aussi un exemple. Il y a aussi une autre possibilité, une autre solution. C'est de faire comme Abraham, qui va dire, « Papa, même si tu veux rester là, moi j'y vais. Dieu, je ne sais pas où tu me mènes, mais je suis déjà arrivé à Charan parce que je te suivais. Alors je vais encore te suivre parce que c'est ça qui m'importe. C'est pas tant l'endroit où je suis, c'est pas tant ce que je fais, c'est d'être là où tu veux que je sois et de faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, c'est de te connaître comme tu veux que je te connaisse. Et je veux plus. Je veux plus. Abraham, s'il ne voulait pas plus, jamais il aurait quitté Charan. Est-ce que tu en veux plus? Est-ce qu'il y a une faim, une soif dans ton cœur? Alors qu'on a les yeux fermés, les têtes baissées, je veux te donner l'occasion de dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai entendu ta voix ce matin et ça parle à mon cœur et je ne peux pas continuer sans te dire, Seigneur, oui je veux continuer avec toi, je veux partir de Charan avant de mourir, je veux. À ce moment-là, je te demande simplement de lever la main et moi je vais prier avec toi. Ce n'est pas ma prière qui va changer quelque chose parce qu'il faut que toi tu pries et tu vas le faire avec tes propres mots. Mais je vais m'associer à cette prière. Et l'Église, on va s'associer à ta prière. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Je vois d'autres mains aussi. Et je vois vos mains. Alléluia. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière personne? Je ne vais pas le redire, je ne vais pas faire de pression. Mais si seulement il y a une autre personne qui est encore en train de combattre et qui n'a pas pris cette décision-là, c'est le moment. Vas-y maintenant. On va prier ensemble. L'Église, vous priez avec moi pour tous ceux qui avaient besoin d'entendre ce message. Dieu est tellement bon. Il a donné ce message ce matin pour tant de personnes. Alors vous priez avec moi. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, pour les personnes que je ne connais pas du tout. Seigneur, peut-être quelqu'un qui vient ici pour la première fois, Seigneur, qui est interpellé par ta parole. Jésus, je te prie, mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur, pour cette parole qu'ils ont reçue. Je te demande par le Saint-Esprit de sceller cette parole. Va faire plus loin que ce que moi je peux faire, que ce qu'aucun homme ne peut faire. Va mettre que ce soit des paroles de feu dans leur cœur, Seigneur Jésus. Que ça continue de brûler, pas seulement maintenant, mais aujourd'hui, demain et dans les jours qui vont suivre, et dans les semaines, dans les mois, dans les années peut-être. Pars avant de mourir. Seigneur, tu vois cet acte de foi, cette attitude de cœur. Cette main qui se lève, tu vois cela, c'est la seule chose que tu attends, Seigneur, mon Dieu. Et je prie que maintenant, par le Saint-Esprit, tu viennes leur donner l'assurance que tu es avec eux, que tu as vu cela et que tu as marché avec eux. Alléluia. Viens, Seigneur, transformer, Seigneur, ceux qui sont dans le compromis, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es un Dieu jaloux, tu ne tolères aucun rival, Seigneur, mon Dieu, et c'est pour notre bien, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui ont peur, qui sont dans la crainte, et la crainte les empêche d'être des hommes et des femmes de foi, alors que toute notre vie, elle est par la foi. Seigneur Jésus. Tous ceux qui se contentent de peu. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux maintenant, Seigneur, qu'on puisse voir comme toi tu vois. Tu veux tellement plus pour ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre un chant qui dit, je connais pas tes voix, je les comprends pas forcément tes voix, mais je veux les suivre et je vais te faire confiance jusqu'au bout. Si c'est ta prière, est-ce que tu veux bien te lever en disant, ouais, moi je me tiens sur cette parole. Elle est à moi cette parole, c'est ce que je veux dire. Et ceux qui ont levé la main, est-ce que je peux vous demander une dernière chose pendant ce chant-là, avec vos propres mots, dites à Dieu cette déclaration de foi. Ok Seigneur, je comprends, j'ai besoin de toi. Je veux partir de Charan. Alléluia.
Rien ne saurait me détourner de ton amour. Il durera jamais. Il guide mes pas chaque jour. Je tiens le bon. Je compterai sur toi. Restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voix, mais je me confie en toi. s'ouvre.